De vous présenter les grands principes de la règle protocolaire et des usages républicains. Et tout d'abord, je voulais dire que faut pas voir le protocole comme une contrainte ou contre quelque chose qui complique les cérémonies, mais plutôt bien comprendre que le protocole est là pour vous aider à organiser des événements officiels. C'est un élément important puisqu'il participe à l'incarnation de la République, de ses valeurs et de la Constitution. Bien évidemment, on prend aussi en compte les usages locaux, hein, qui sont une réalité, comme les usages républicains. Et le but de ce qui vous est présenté par Madame Bouvet, en fait, c'est essayer de combiner, eh bien, les règles protocolaires, les usages républicains et les usages locaux, à travers six items: l'organisation d'une cérémonie nationale ou locale, l'organisation d'une visite ministérielle ou d'une inauguration, les règles concernant le pavoisement, le décès d'un élu en cours de mandat, hein, suite aux questions qui nous sont parvenues. Et puis enfin, nous finirons sur la carte d'identité des élus et l'honorariat des élus. Voilà un petit peu pour le menu. Alors, il y aura un échange, après une partie d'échange, questions-réponses. On va essayer de faire une présentation la plus dynamique possible pour vous faire découvrir, encore une fois, les grands principes du protocole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour votre présence après le déjeuner sur cette partie du protocole. Donc, je suis Sylvie Bouvet, je suis chef du bureau de la représentation de l'État et de la communication interministérielle au sein du cabinet de Madame la Préfète. Le cabinet, donc, qui est en charge, entre autres, de l'organisation des cérémonies nationales, des cérémonies commémoratives, des visites ministérielles et des inaugurations. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le protocole? Alors, le protocole, très simplement, c'est l'ensemble des règles qui fixent l'ordre des préséances de notre représentation nationale. Ce protocole figure dans un décret, le décret qui date de 1989. Donc, il est un petit peu ancien, mais il est toujours en vigueur, ce qui prouve aussi une stabilité dans nos usages républicains. Notre décret de 89 est formidable parce qu'il contient tout ce dont nous avons besoin pour organiser notre cérémonie. Nous avons la liste des personnalités incontournables qu'il convient d'inviter pour ces cérémonies. Nous avons l'ordre de préséance qui est fixé, donc notre rang protocolaire. Et de ce rang va résulter l'ordre des prises de parole et l'ordre des dépôts de gerbes. Donc, les cérémonies nationales sont organisées sur instruction du gouvernement à l'occasion de grandes journées d'hommage et de souvenirs, comme le 8 mai, le 18 juin ou encore le 11 novembre, que nous allons célébrer dans quelques jours. Nous avons également les commémorations nationales. Donc là, qui sont des journées en hommage aux victimes, notamment du terrorisme, de la déportation ou encore de l'esclavage. Et nous avons des cérémonies locales que vous, mesdames et messieurs les élus, vous pouvez organiser dans vos communes pour commémorer un fait important lié à l'histoire de votre commune, comme un fait de résistance ou la libération de votre ville. D'une façon générale, les cérémonies sont placées sous le commandement de l'autorité militaire. L'autorité militaire ne peut pas être présente partout, sur tout le territoire, à toutes les cérémonies. Donc, il revient au maire d'organiser ces cérémonies sur son territoire. Je sais pas si on peut peut-être afficher. Donc pour toutes nos cérémonies, je vous parlais tout à l'heure des personnalités incontournables qu'il convient d'inviter. Vous avez bien évidemment le représentant de l'État dans le département, donc le préfet, le sous-préfet. Vous avez ensuite les députés, les sénateurs, le président de la région, du conseil régional, pardon, le président du conseil départemental. Vous pouvez également associer le président de l'EPCI duquel vous dépendez. Sur notre petit dessin, nous avons quand même intercalé le député européen, puisqu'il peut également prendre toute sa place dans le rang protocolaire. Le rang protocolaire s'établit de la façon suivante. Vous placerez toujours l'autorité de le représentant de l'État au centre du dispositif. C'est notre numéro 1 sur notre petite figure. Et immédiatement à sa droite, lorsque les autorités font face au monument, immédiatement à sa droite, le député de la circonscription dans laquelle se déroule la cérémonie. Et puis, alternativement, de gauche à droite, vous placerez les autres élus en partant du national vers le local. Donc en numéro 3, vous avez le sénateur. En numéro 4, vous avez le député européen. Et ensuite, le président du conseil régional, puis le président du conseil départemental, éventuellement le président de l'EPCI s'il est présent. Et ensuite, vous, mesdames et messieurs les maires, qui prenez toute votre place dans le dispositif. Les cérémonies se déroulent toujours de la même façon. Elles débutent avec l'arrivée du représentant de l'État et elles prennent fin au départ de celle-ci. Une fois l'autorité sur place, il vous revient d'établir donc le rang protocolaire face au monument. La cérémonie débute, en général, par des lectures de textes. Ensuite, vous avez le dépôt de gerbes. Vous avez la sonnerie aux morts. Vous avez la minute de silence. Et ensuite, l'hymne national qui clôture la cérémonie. Pour les prises de parole et les dépôts de gerbes, il conviendra de procéder dans l'ordre inverse du rang protocolaire. C'est-à-dire qu'on commencera par un dépôt de gerbes des associations combattantes, si elles sont présentes, et immédiatement après, le maire, qui dans sa commune aura l'honneur de débuter ce dépôt de gerbes, et ensuite vous remonterez toute la chaîne du local vers le national. Après le maire vient le président du conseil départemental, puis le président du conseil régional, les sénateurs, les députés et enfin le préfet qui clôture ce dépôt de gerbes. Pour les commémorations que vous organisez, donc ça c'est le cas concret d'une cérémonie nationale, mais dans vos communes, vous pourrez procéder exactement de la même façon. Avant de passer peut-être à quelques questions, si vous en avez, quelques petits points d'importance, comme le soulignait le directeur tout à l'heure. On essaye toujours d'assouplir le protocole en fonction des usages locaux. Si vous organisez une cérémonie dans votre commune, n'hésitez pas à mettre à l'honneur, si vous avez encore la chance de compter parmi vos habitants un ancien combattant, n'hésitez pas à le mettre à l'honneur, mettre à l'honneur sa famille. Les associations combattantes vous en seront très reconnaissantes. La population et la famille de cette personnalité également. Donc, vous voyez, c'est vraiment une combinaison entre un protocole républicain et des usages locaux qui permettent de mettre à l'honneur un fait important dans votre commune pour la partie voilà, cérémonie locale dans vos communes. N'hésitez pas également, si, en cas d'événement où vous attendez beaucoup de monde, n'hésitez pas à sécuriser également vos événements. Vous avez tout à fait la possibilité de prendre des arrêtés de restriction de circulation, des arrêtés empêchant la circulation ou le stationnement, des sécurisations de type aussi bloc-stop pour éviter... des problèmes avec les véhicules pendant vos cérémonies. Est-ce qu'à ce stade, sur l'organisation des cérémonies, vous avez des questions ?
Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Dans les différents types de cérémonies, il y a les cérémonies nationales, les cérémonies locales qui peut-être viendront, ou communales ou autres. Et j'avais une ou deux questions, une ou deux remarques. Par rapport au décret, est-ce qu'il y a des adaptations possibles ? Je vois que les autorités sont alignées sur une seule ligne. Et il y a parfois une typologie de communes. Vous évoquez par exemple le préfet ou sous-préfet ne peut pas être présent dans toutes les communes, par exemple. Mais sur des villes moyennes ou plus grandes ou des métropoles, il y a derrière où il peut y avoir peut-être un deuxième ou troisième rang. Il peut y avoir des adjoints, des conseillers municipaux. Et je voulais savoir comment ça peut s'organiser derrière. Je pense à un cas très personnel qui est celui de la ville de Cahors, puisque à un moment donné, les conseillers municipaux, les adjoints, représentent aussi la population. Et sur les monuments aux morts se trouvent les enfants de la commune morts pour la patrie. Merci de votre réponse.
Le rang protocolaire qu'on vous a présenté ici est effectivement très classique. En fonction de la dimension de la cérémonie et en fonction du nombre d'invités, les rangs protocolaires se déclinent sur plusieurs lignes protocolaires. Donc bien évidemment, les élus, l'ensemble des élus, ils trouvent toute sa place et prennent rang. Et pour éviter d'avoir une ligne beaucoup trop longue et beaucoup trop importante, ils prennent place sur des rangs. Le deuxième rang ou un troisième rang.
Je vous remercie de votre réponse qui répond à ma question sur
vous en prie.
Un plan personnel et local.
Y a-t-il d'autres questions ? Profitez-en avant qu'on passe aux inaugurations. Non ? Ça veut dire que tout est clair pour vous ? Bon, rassurez-vous, les éléments qui sont projetés et la note qui va avec vous parviendront également. Et il y a une question, pardon, j'avais pas vu.
Juste, par rapport aux cérémonies, aux monuments aux morts, vous n'avez pas fait, il me semblait, vous n'avez pas parlé de l'appel aux morts. Ça se fait quand pendant, parce que des fois, suivant les communes, j'ai vu des choses très différentes.
Effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont différentes. Le déroulé sera toujours identique, quelle que soit la cérémonie. Débute par la lecture de textes, de messages, le représentant de l'État lisant le message du gouvernement en dernier. Ensuite vient le dépôt de gerbes, donc dans l'ordre inverse du rang protocolaire. Ensuite, la sonnerie aux morts. Après le dépôt de gerbe, une fois que le représentant de l'État a déposé la gerbe, la sonnerie aux morts retentit. Si vous n'avez pas de sonorisation, une personne est chargée d'appeler aux morts. Ensuite, s'ensuit tout de suite la minute de silence. Et à l'issue de la minute de silence, l'hymne de la Marseillaise qui clôture toujours la cérémonie. Pas d'autres questions sur les cérémonies. On va passer aux visites ministérielles. Ah, il y a une question.
Attendez, monsieur, le micro arrive. Comme ça, tout le monde vous entendra.
Bonjour. Quand on lit les morts pour la France, on les lit quand ? On se met devant la liste et on les lit. Morts pour la France. Quand est-ce qu'on le fait ?
Pardon. Oui, vous, à la fin du dépôt des gerbes, vous énoncez les morts pour la France. À chaque nom énoncé, on appelle aux morts. Et une fois que cet appel aux morts est terminé, s'ensuit donc la sonnerie et la minute de silence.
Allez, on enchaîne sur les inaugurations et visites ministérielles.
Donc les visites ministérielles. Lorsqu'un ministre est annoncé sur votre commune, serez en étroite collaboration avec notre directeur de cabinet et les services du cabinet pour vous aider et vous accompagner dans la préparation de cette visite. Les invités seront les mêmes que pour les cérémonies, donc notre représentation nationale, nos députés, nos sénateurs, le président de la région, le président du département, le président de l'EPCI dans lequel est placée votre commune, l'ensemble de votre conseil municipal, bien évidemment, auquel il faut ajouter, en fonction de la thématique de la visite, les acteurs locaux, donc qu'il s'agisse d'acteurs du monde économique, des chefs d'entreprise, des artisans, les chambres consulaires et l'ensemble des acteurs qui peuvent concourir voilà, à la thématique envisagée par cette visite ministérielle. Vous, mesdames et messieurs les maires, lorsqu'il y a une visite ministérielle, vous êtes vraiment placés au cœur de ce dispositif parce que c'est vous qui accueillez le ministre dans votre commune. Donc vous serez en première ligne, bien sûr, avec vos adjoints, avec vos écharpes autour de votre épaule et l'ensemble de votre conseil. C'est vous qui accueillez le ministre, donc c'est vous qui avez l'honneur donc, de l'accueillir dès son arrivée.
D'ailleurs, on prend toujours grand soin à organiser ce qu'on appelle l'accueil républicain. Et c'est un moment fort de l'arrivée de l'autorité ministérielle dans la commune. Et comme disait Sylvie, pensez bien à porter votre écharpe. Ça vous identifie tout de suite comme étant le maire, l'autorité accueillante.
S'il y a prise de parole, il y en aura forcément, les discours ont lieu également dans l'ordre inverse du rang protocolaire. Et c'est toujours le ministre, bien sûr, qui parlera en dernier, l'honneur étant laissé au maire dans sa commune d'ouvrir les discours et de parler en premier.
Bon, les visites ministérielles, c'est particulier parce que le Brissy, le bureau que nous représentons ici, une partie, se déplace, vient en amont extrêmement préparer la chorégraphie. Donc vous êtes vraiment encadré. Et il y a toujours une équipe qui précède l'arrivée du ministre pour être sûr que l'accueil républicain est prêt. Donc c'est quelque chose qui est assez bien, enfin qui est professionnalisé et qui est sur lequel vous pouvez vous appuyer sur nous pour l'organisation. Donc là-dessus, pas trop de difficultés. Par contre, c'est vrai que les inaugurations sur lesquelles on va venir, là c'est encore autre chose.
C'est un protocole qui est un petit peu plus souple. On laisse beaucoup de spontanéité dans ces moments, puisque voilà, l'objectif des inaugurations, c'est de pouvoir mettre la lumière sur vos communes. Donc c'est bien là le plus important. Vous aurez de toute façon les mêmes invités que pour une visite ministérielle. Il faudra simplement penser convier en plus les financeurs de vos inaugurations. Il faudra penser également à inviter les artisans, l'architecte, le maître d'œuvre qui est intervenu sur les travaux dans votre commune et bien sûr la population qui est la bienvenue. Pour les inaugurations, comme le disait le directeur, le représentant de l'État qui se déplace ne sera pas forcément attaché à un protocole très, très strict. Ce qu'il souhaite particulièrement, c'est être présent auprès de vous, mettre en lumière les réalisations et les projets de votre commune et être au plus proche de la population de votre commune. Voilà. Donc, pas beaucoup d'inquiétude pour l'organisation des inaugurations. Comme le disait le directeur, c'est très important. Vous pouvez compter sur les services du cabinet pour l'organisation des cérémonies, pour l'organisation des visites ministérielles. Nous serons toujours avec vous pour l'aspect logistique, l'aspect invitation, l'aspect sécurité, avec notre service des sécurités qui fait partie du cabinet aussi, pour la sécurisation de ces grands événements.
Voilà, pour l'inauguration, autant sur les cérémonies, visites ministérielles, bon, comme je disais, c'est très chorégraphié, des règles assez strictes, autant l'inauguration, il ne faut pas vous sentir étouffé par le protocole. Certes, il y a des règles, mais c'est vraiment vous, en tant que maire, qui avez la main, c'est ce que vous avez envie de montrer à l'autorité qui se déplace. Il y a souvent une visite terrain qui est vachement appréciée, qui est très importante, d'aller voir concrètement ce que vous voulez montrer, d'expliquer, et ensuite il y a un moment, un deuxième temps après la visite terrain qui est celui des prises de parole, voilà, qui répond aussi à un ordre protocolaire avec une prise de parole de l'État, donc en dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie inauguration?
On a été très clair.
Je sais pas, ouais, j'espère. Non, mais souvent, il y a un peu de stress en amont. Vraiment, l'idée, c'est à votre main. C'est ce dont vous avez envie de montrer qui est important dans une inauguration. Donc voilà, il y a une certaine liberté, il faut en profiter. C'est clair. Bon, bah, très bien. On passe au point suivant.
Le pavoisement. Alors, le pavoisement des édifices n'est pas fixé dans un texte, mais c'est un usage républicain qui veut que notre drapeau national orne la façade de nos édifices publics. C'est le drapeau tricolore qui, bien sûr, sera le seul emblème qu'il convient d'arborer sur les bâtiments, mais évidemment, il convient aussi d'associer le drapeau européen. Et la place des drapeaux sera toujours la même, c'est-à-dire le drapeau européen est placé à droite du drapeau français, donc à gauche quand on regarde l'édifice. Si vous devez apposer un troisième drapeau, si vous accueillez une personnalité président de la République d'un pays étranger, eh bien le drapeau tricolore sera placé au centre et le drapeau du pays en visite sera placé donc en deuxième position, donc à droite du drapeau français ou à gauche quand on le regarde, et le drapeau européen en troisième place. Pour se souvenir de la place du drapeau français, une petite astuce, on dit qu'il est placé côté cœur. Voilà. Donc quand on a nos drapeaux dans le dos, il est placé côté cœur. Vous pouvez être amené à mettre en berne les drapeaux de votre commune. Alors, la mise en berne peut être effectivement décidée sur instruction du gouvernement, dans le cadre d'une commémoration particulière ou d'un grand événement. Donc, la mise en berne consiste tout simplement à nouer un ruban noir à mi-hauteur de votre drapeau. Et vous pouvez, vous, mesdames et messieurs les maires, décider dans vos communes de la mise en berne de vos drapeaux. En cas de décès d'un élu, vous pouvez tout à fait, après délibération du conseil municipal, décider la mise en berne pour un temps donné des drapeaux de votre commune. Cette mise en berne nous amène peut-être à...
Oui, sauf s'il y a des questions avant sur le positionnement des drapeaux et mise en berne. Donc bien un ruban noir hein, pour mettre en berne les drapeaux, ça c'est important. Oui, il y a une question.
Oui, je reviens juste sur la mise en berne. Vous dites, en fin de compte, une délibération du conseil. Ça ne peut pas être une décision du maire?
Une décision, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Oui.
Merci. Une petite question sur la mise en place des drapeaux. Donc drapeau français, drapeau européen. Concernant le drapeau de la région, est-ce qu'il est autorisé à mettre sur la mairie ou pas ?
Il n'est pas interdit. Vous pouvez tout à fait mettre le drapeau occitan.
C'est, voilà, quand j'évoquais les usages locaux, ah, ça en fait partie. Si ce n'est pas interdit, par définition, voilà. Nous allons aborder peut-être maintenant un sujet voilà, qui nous a été demandé d'aborder, un sujet délicat. Oui. Ah, le drapeau de la région, à quelle position on le met ?
Le drapeau de la région, ouais. Il est placé normalement...
À la deuxième place.
Oui, à la deuxième place. Le drapeau français... Le drapeau français encadre les drapeaux européens et occitans.
Voilà. Donc, comme je disais, on va aborder un autre sujet qui est celui délicat du décès d'un élu en mandat. Il y a eu pas mal de questions voilà, sur cette thématique. Donc, je pense que c'est le moment de l'aborder. Et de vous expliquer les grandes règles qui président à ces cérémonies.
Oui, on a eu le cas malheureusement ces derniers mois où les mairies nous ont notamment posé des questions pour les décès des maires, des adjoints en mandat, et notamment la question savoir s'ils pouvaient bénéficier, si je puis dire, du drapeau tricolore sur leur cercueil. Il y a seulement quelques cas qui fixent le drapeau tricolore sur les cercueils. Cet usage est réservé notamment pour les anciens combattants, pour les fonctionnaires de police, gendarmerie, pompiers, morts dans l'exercice de leurs fonctions.
Ah, donc, voilà, donc ça c'est les règles. Après, quand on parle d'usage aussi locaux, rien n'interdit à ce qu'il soit symboliquement déposé sur le cercueil, l'écharpe de maire. Ça se fait, et c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable, bien sûr.
Et d'une façon générale, lorsqu'un élu décède en mandat, donc un maire ou un adjoint au maire, le préfet prend attache avec la famille pour recueillir son approbation pour la présence du préfet en uniforme pour les obsèques de cet élu.
Voilà. En tout cas, si la famille est d'accord pour que l'État soit représenté à ses obsèques. Voilà. Est-ce que là aussi, vous avez des questions ? J'espère qu'on a été clair. Oui ? Bon. On va passer à une chose un peu plus joyeuse. L'honoraria.
La carte d'identité des élus. La carte d'identité des élus donc, qui a été instaurée en 2019 par la loi Engagement et Proximité. Vous en avez bénéficié, certains d'entre vous, à l'issue du scrutin de 2020. Donc, c'est une carte d'identité qui est destinée aux maires délégués et à leurs adjoints, et qui permet d'attester de votre fonction de maire partout sur les territoires de la République. Voilà. Donc cette carte est entièrement dématérialisée pour la procédure de demande. Il convient de se connecter sur un portail numérique, vous aurez l'adresse dans le visuel qu'on vous adressera. C'est l'Imprimerie nationale qui a développé cette carte, qui est entièrement sécurisée, elle est au format unique, et elle est fournie gratuitement à tous les élus qui en font la demande. Donc, une fois la commande réalisée, c'est la préfecture donc, qui reçoit la carte d'identité, qui reçoit une notification et qui peut ensuite vous la délivrer contre signature, bien sûr, donc en préfecture ou en sous-préfecture. Voilà.
Et là, j'aimerais faire un petit sondage. C'est parmi vous, lesquels ont cette carte des maires ? Ah oui.
J'ai les chiffres. Hein.
D'accord. Non, mais d'accord, c'est une bonne moitié.
Voilà, il y a 312 cartes d'élus qui ont été délivrées depuis 2020. Cette carte sera généralisée au renouvellement donc, de 2026.
Okay.
Et le dernier point qu'on souhaitait évoquer avec vous, sauf si vous avez des questions sur cette partie. Donc le dernier point, c'est l'honoraria des élus. Donc l'honoraria est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, anciens maires adjoints, anciens maires délégués qui ont exercé leur fonction pendant un minimum de 18 ans. L'honoraria peut être conféré aussi aux anciens conseillers départementaux, conseillers régionaux, qui ont également effectué leur fonction élective pendant respectivement 18 ans ou 15 ans. Donc il faut avoir cessé les fonctions pour pouvoir prétendre à l'honoraria. Rien ne vous empêche de rester au conseil municipal, mais vous ne pouvez plus être maire ou maire délégué ou adjoint. Les présidents et vice-présidents de PCI peuvent également bénéficier de l'honoraria lorsqu'ils ont quitté leur fonction. Rien ne s'oppose, donc, comme je le disais, à ce que vous restiez au conseil municipal. Et l'honoraria prend tout simplement la forme d'un arrêté préfectoral et d'un diplôme. Donc vous pouvez en faire la demande librement. Le représentant de l'État peut tout à fait aussi décider de vous remercier par le biais de l'honoraria.
Voilà. Y a-t-il des questions sur l'honoraria, pardon, ou...
Oui.
Oui,
oui, c'est moi qui ai une question, là.
Ah, pardon.
Donc, François Raquet, mairie de Bagnac. La question que je voudrais poser, c'est de savoir si on peut demander l'honoraria, enfin, ou plutôt ce qui m'a été répondu, c'est qu'on ne peut pas demander l'honoraria tant qu'on a encore des fonctions, notamment dans les syndicats ou dans des structures intercommunales, d'une manière générale.
Il ne faut pas être président ou vice-président. Voilà. Il ne faut pas figurer dans l'exécutif de la structure.
Ni maire adjoint, en fait.
Ni maire adjoint.
D'accord. On va patienter encore un peu.
Voilà, encore un peu de patience. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comme je le disais, l'idée, c'était de ne pas rentrer non plus dans le détail, parce que, je le disais en introduction, les règles protocolaires, il ne faut pas que ça soit vécu comme une contrainte ou quelque chose qui complique les cérémonies. Mais je pense que, voilà, il y a des grandes règles, des grands principes qu'il faut de toute manière observer, parce que ce sont les valeurs de la République, de la Constitution. Il y a des usages républicains qui sont incontournables. Et pour le reste, dès qu'il y a de la souplesse à avoir, nous, il n'y a pas de souci, on est là pour vous accompagner et faire en sorte que les choses soient le plus fluides pour vous. Et en règle générale, on l'observe, les cérémonies se passent très très bien. Les inaugurations aussi, on a des bons retours de la part de votre part pour des inaugurations. Donc voilà, c'est qu'il y a une bonne habitude quand même. Mais voilà, on pense qu'il était nécessaire quand même de rappeler les grands principes structurants du protocole. Il y a une dernière diapo où il s'agit de nos coordonnées. Voilà.
Les coordonnées du bureau, du cabinet. Voilà, n'hésitez pas. Elles seront présentes, bien sûr, sur le visuel qu'on va vous envoyer dès lundi. Mais nous sommes à votre entière disposition pour toute question, pour toute organisation. N'hésitez pas. On est là pour vous.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.